Hello, bienvenue dans Ça reste entre nous. Je m'appelle Pierre Orlac et j'ai fondé Bababam, un studio de création de podcasts. Tous les 15 jours, je troque une heure de piscine contre une heure à poser des questions à des gens passionnants et passionnés. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec l'hypersensible et charismatique Dora Mouto. Dora, c'est une femme qui défend des causes et sa cause. La reine de l'Instagram sans filtre. En quelques mois, elle a construit des communautés ultra engagées autour de la sexualité féminine et de la santé. Dora a commandé un thé glacé sans sucre. Vous comprendrez pourquoi après. Écoutez sa voix qui sourit et son parcours génial dans Ça reste entre nous, le dernier endroit où l'on parle à bâton rompu. Salut Dora.
Salut.
Merci de venir jusqu'à nous et d'accorder cette interview à Ça reste entre nous. J'aimerais commencer l'interview par un truc tout bête. Je voudrais savoir ce que tu as fait aujourd'hui.
Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai été faire la promo de mon livre qui s'appelle La fleur de P-P-E-T. J'ai été faire la promo chez Combini aujourd'hui. Okay. Voilà.
Et donc, tu boucles la boucle un peu?
Exactement, je boucle la boucle. Et j'ai travaillé sur le docu que je suis en train de créer un docu pour France Télévisions et Arte sur les thérapies du microbiote. Donc je suis à fond dans les...
Donc c'est le même sujet finalement,
le sujet
de ton livre qui va devenir un documentaire.
C'est ça.
Et donc t'es déjà certaine d'une diffusion
Oui.
Ok.
Ça a été acheté.
Très bien.
Ce sera
félicitations.
Merci.
Et du coup, ça sera diffusé sur France Télé sur...
En fait, c'est France TV/, enfin la partie okay. slash sur Internet, Arte et la plateforme de TV5 Monde qui ont acheté tous les trois ce docu. En fait, on a répondu à un appel d'offres avec ma boîte de prod qui est Effervescence Prod. L'appel d'offres était « Ma vie sur les réseaux sociaux ». Et du coup, il fallait qu'on imagine un concept autour de ça. Et moi, ça fait longtemps que... Enfin, en fait, la façon dont j'ai écrit mon livre, c'est-à-dire que mon problème de santé, j'ai réussi à l'explorer à travers les groupes de malades Facebook, en fait. La médecine conventionnelle ne pouvait pas m'aider. Je ballonnais absolument tout le temps. J'ai une machine à péter, à faire... Une machine à gaz, quoi. Le truc complètement hallucinant d'un jour à l'autre. Je pouvais plus rien digérer. Les médecins me disaient, c'est dans ta tête, Dora, c'est psychosomatique. Moi, il y a un moment, j'ai plus pu entendre ça. Et en fait, en tapant les bons mots-clés, j'ai été sur Facebook et j'ai découvert des groupes de malades extrêmement pointus. Et du coup, j'ai pu poser des questions et j'ai pu peu à peu évoluer à travers les groupes de malades parce qu'il y en a plein. Et j'ai découvert plein de thérapies plus ou moins alternatives. Pour me soigner, et du coup le docu, en fait, on rentre dans le docu à travers ces groupes Facebook.
Ok, donc c'est quel est l'impact aujourd'hui des réseaux sociaux
dans la maladie
et dans notre façon d'appréhender la maladie.
Exactement.
Ok. Ça fait, c'est aujourd'hui, ton actualité c'est celle-là, mais t'as beaucoup d'actualités.
Ouais.
Tu représentes un peu ce monde nouveau où en fait on n'a plus un seul métier ou une seule activité et où on cherche surtout à avoir un impact, à donner du sens à sa vie et à essayer de le mixer avec une carrière professionnelle.
Ouais.
Est-ce qu'à un moment quand tu étais petite fille, tu te disais je vais être une porte-voix, je vais défendre des causes comme tu peux le faire aujourd'hui ou pas vraiment?
Non, moi je me disais, alors quand j'étais petite, je voulais être créatrice de prénoms.
Créatrice de prénoms.
Ouais, c'était ça mon rêve, c'est-à-dire que mes poupées avaient chacune au moins 5 ou 6 prénoms, parce que j'arrivais jamais à me décider avec un seul. Et je demandais à ma mère de m'acheter à Noël des livres de prénoms. Et ça me passionnait, les livres de prénoms, aussi bien les prénoms grecs que les prénoms russes. Et je pensais qu'on pouvait faire l'université des prénoms pour devenir créateur de prénoms. Et quand mes parents m'ont dit que ce n'était pas un métier,
À quel âge tu t'en es rendu compte?
Je sais pas, genre à 9-10 ans.
Et ouais,
j'étais trop choquée. Je disais, mais merde, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et après, j'ai voulu faire un autre métier. Alors là, c'est complètement absurde, mais Quand j'étais enfant, je voyais bien qu'il y avait des pastèques avec des grains de raisin et d'autres qui n'en avaient pas. Et en fait, moi, ma passion, c'était d'enlever les grains de pastèque. Quand on me donnait une pastèque, je prenais des heures à retirer chaque grain de pastèque. Je me disais, il y a bien quelqu'un qui le fait. Donc, moi, je voulais bien...
C'était quelque chose qui ne te dérangeait pas, quoi. Tu te voyais faire ça de 7 jours sur 7.
Et oui, je trouvais que c'était très méditatif comme job. Et j'ai découvert que c'était des pastèques génétiquement modifiées. Donc, voilà. D'accord.
Donc, passer cette déception, t'as eu une enfance plutôt heureuse ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout. J'ai pas eu une enfance heureuse. Je dirais que j'ai eu une enfance peut-être pas, pas malheureuse comme on pourrait imaginer une enfance où, avec des difficultés financières ou quelque chose comme ça. C'était pas du tout le cas. Mais du moins, c'est une enfance où je ne me suis pas sentie heureuse.
D'accord.
Une situation familiale compliquée, des parents dans l'amour-haine, donc beaucoup de violence en fait, beaucoup de violence-amour, enfin très compliqué, beaucoup de violence envers, beaucoup de violence même envers les enfants, entre guillemets, parce que la violence du couple se reporte sur les gosses, et une adolescence où moi j'ai été très violente, et moi j'ai été très en colère, donc pas smooth.
Comment ça se traduisait ? T'étais agressive, t'étais...
Alors déjà la
Très rébellion.
Très rébellion, très nos futurs, très cheveux roses.
Donc t'es passée de créatrice de prénoms à très nos futurs, quoi.
Ouais, complètement. Okay. C'est ça, très nos futurs. Un peu indomptable et très enragée. Donc je dirais qu'aujourd'hui, la défense de cause, ça va avec un peu le profil adolescente, sauf que j'ai intellectualisé ça, on va dire. Je me suis trouvé des excuses pour être énervée. Il y a un feu de colère, quoi.
Ouais. Et ça t'a pas embêté dans ton parcours scolaire, t'étais une bonne élève quand même ?
Non, pas du tout. Moi, j'ai détesté l'école.
D'accord.
J'étais la reine du hors-sujet. Donc, hors-sujet tout le temps, puisque ce qui m'intéressait, c'était pas de répondre à la question, c'était de prendre ce qui m'intéressait, de le développer comme moi je l'entendais. Sauf que ça marche pas du tout à l'école à la française. Mes parents ont beaucoup galéré, parce qu'il y a même un stade où j'ai été complètement déscolarisée, parce que j'ai développé une phobie scolaire à un certain stade. Parce que les gens comme moi, il y a un moment, on leur fait comprendre qu'ils sont bêtes, en fait. Donc voilà, moi, je me suis posé des questions, si j'étais pas totalement teubée, vu que je rentrais pas. Enfin, je suis pas bonne à remplir un truc. Quand il y a un test, là, comme ça, je suis à côté de la plaque, je panique. Et moi, je suis quelqu'un qui fonctionne avec du contrôle continu. Et on note pas la créativité. Enfin, il y a tout un tas de qualités que j'ai qu'on ne note pas en France. Donc ça a été compliqué, quoi. Ça a été très compliqué, jusqu'à ce que, heureusement, j'ai fait une partie de mes études en Angleterre, et ça a été la libération, la philosophie anglaise.
T'as trouvé un vrai changement dans le mode de fonctionnement et dans le mode d'éducation entre l'Angleterre et la France ?
Révolution, quoi. Déjà, j'ai toujours souffert de dyslexie. En France, on ne l'a jamais vraiment pris en compte à l'école. On m'a humiliée parce que je faisais des fautes d'orthographe. J'ai l'impression qu'on m'a constamment humiliée tout au long de mon parcours scolaire. Lorsque en Angleterre, des choses comme la dyslexie, ce sont des problèmes accompagnés, où on nous laisse plus de temps, on a quelqu'un qui peut relire pour nous. Et puis même, c'était du contrôle continu, et il n'y a jamais de test, en fait. C'est-à-dire que je ne me suis plus jamais retrouvée, pourtant c'était l'université, je ne me suis plus jamais retrouvée à devoir être performante en une heure, ce qui pour moi... ne fonctionne pas avec la structure de mon cerveau. Toujours noté sur contrôle continu, créativité, recherche.
T'es partie en Angleterre à quel âge ?
À 21 ans.
21 ans,
ouais.
Ok. Dans le cadre de tes études supérieures, t'es partie faire quoi là-bas ?
Alors, en France, en amont, j'avais fait un BTS en... stylisme, modélisme, parce qu'à l'époque en fait j'étais une ado assez rebelle avec des cheveux de toutes les couleurs, j'ai les cheveux de l'arc-en-ciel, quoi. J'aimais bien m'habiller de façon très très excentrique, très kawaii.
Donc l'Angleterre, quoi.
Et après l'Angleterre, donc finalement je me suis pas mal retrouvée dans cette culture, et donc en Angleterre j'ai fait journalisme et communication de la mode à la Central Saint-Martin, qui est une école d'art et de mode. Ça a été la libération parce que en France, même dans mes choix de stylisme, enfin de esthétique, on me disait mais Dora, t'as mauvais goût, quoi. Franchement, t'as mauvais goût, ça va pas du tout. Si tu t'attardes pas sur les finitions et quelque chose de plus chic, minimaliste, tu rentreras jamais sur le marché. Tandis qu'en Angleterre, on m'a dit ah bah tu sais quoi, t'as mauvais goût, bah vas-y. Et à ce moment-là, j'ai créé, c'est la première chose
la
que j'ai créée sur Internet, voilà, la Gazette du mauvais goût. Et sans cette libération anglaise qui me disait mais t'as le droit, tu sais quoi, si t'es bonne dans le mauvais goût. En fait, vaut mieux être bonne dans le mauvais goût que médiocre dans le chic, en fait. Mmh. Et je savais que j'avais un œil...
Tu savais capter le mauvais goût, là où il était.
Et il fallait, parce que j'ai des parents qui ont très mauvais goût, j'ai un père qui met chaussettes, sandales, et j'ai vécu 7 ans en Allemagne, je pense que ça n'y est pas pour rien. Donc, voilà.
Okay. Et donc là, ça, c'est à 21 ans, tu projettes, alors plus d'être créatrice de prénoms, mais tu projettes d'exprimer ta colère, d'exprimer avec un métier créatif. C'est plus ou moins ça.
En fait, ce qui m'intéresse beaucoup à l'époque, ce qui m'a toujours intéressée, c'était les minorités, les sous-cultures. Voilà. À l'époque, c'était surtout les sous-cultures vestimentaires qui m'intéressaient. Alors, ça pouvait être une subculture métal ou une subculture plus dans un registre plus sexe fétichiste. Et c'était vraiment l'étude un peu de ces sous-cultures et de leurs codes vestimentaires qui me passionnait.
Et pourquoi ça t'intéressait, ce côté sous-culture ? Parce que T'as un côté où tu veux mettre en avant ce qu'on met pas en avant, ou
non,
c'était quoi ?
Je crois que c'était déjà un peu l'esprit journaliste, c'est que ça m'amusait de me fondre dans des groupes. Et du coup, c'était une façon de visiter des mondes qui m'appartiennent pas, quoi. C'était une façon de me balader, quoi.
Très bien.
Une excuse.
Et comment tu passes de cette formation journalisme, communication, mais plutôt sur les arts créatifs et le stylisme, à un boulot de journaliste pur et dur ? Comment ça se fait ?
Alors en fait, ce qui se passe, c'est que pendant mes études, vu que j'avais cet attrait pour les sous-cultures, très rapidement, il y a Vice qui est venu me démarcher. À l'époque, et du coup c'était le premier magazine pour lequel j'ai commencé à taffer, donc ça m'a mis un peu les deux pieds dans la culture gonzo, reportage, etc. Et c'est grâce à Vice que je me suis véritablement intéressée au journalisme, hors du prisme mode et esthétisme.
Donc Vice vient de chercher parce que tu as créé un groupe Facebook sur la Gazette du Mauvais Goût,
ou je caricature ? Non, à l'époque, c'était un blog, la Gazette du Mauvais Goût. Et je me rappelle plus exactement, mais j'avais fait un article sur des mecs qui portaient du mohair. Et en fait, c'était des fétichistes du mohair. Et ils se donnaient rendez-vous dans une sorte de maison et ils se tricotaient tous du mohair ensemble, et c'était un fétichisme à la fois sexuel et à la fois vestimentaire, enfin bref. Et le gars de Vice, mais je sais pas comment il m'avait repéré, je m'en rappelle plus exactement, mais il m'avait démarché, c'était Vice UK, en me disant mais putain, c'est vachement marrant, tu veux pas développer, enfin au lieu de faire un blog post à la con, fais un article pour Vice. Et de fil en aiguille, j'ai commencé un peu à faire des petits articles
et
pour lui, quoi.
Pour Vice UK.
UK, ouais, okay. Exactement, UK. À l'époque, ils avaient pas racheté Heidi, ils avaient un truc qui s'appelait Vice Style, qui a complètement disparu. D'ailleurs, je suis dégoûtée parce que tous les articles que j'ai fait à cette époque,
ils sont plus accessibles.
Non, ils sont plus
accessibles.
Dommage,
parce que j'aurais bien voulu aller voir le sujet.
Ah ouais. J'ai fait pas mal de sujets un peu marrants. En fait, il y a un moment, ils m'ont filé une sorte de rubrique qui était une rubrique beauté. Alors moi, j'étais en mode beauté, mais j'en ai rien à foutre de la beauté. Et du coup, je faisais que des trucs débiles. Par exemple, je me suis teint les poils de chatte en rose. Alors je faisais en arc-en-ciel. Après, je faisais un tuto. Je faisais que des trucs débiles à longueur de temps à la Vice, quoi.
Et toujours avec cet esprit gonzo, et je me mets en scène pour raconter ce que je vis et ce que les autres vivent.
Oui, ouais. Complètement. Donc en fait, Vice m'a autorisé ça. Ensuite, bon, j'ai eu un parcours, j'ai fait beaucoup de stages, pas mal dans la presse américaine, pour Nylon à l'époque, qui était un magazine très teen. J'ai fait pour Women's Wear Daily, qui était beaucoup plus industrie de la mode. Enfin, j'ai fait pas mal de stages à droite à gauche. Et puis quand je suis sortie de mes études, je voulais pas être journaliste. Je voulais travailler dans des bureaux de tendance. Ça, c'était mon rêve, en fait, pendant que j'étais dans mes études. Parce que j'avais toujours... j'ai une synthèse assez facile, un truc d'analyse assez rapide. Et je voyais toujours que je me disais, mais putain, je grille les tendances trois ans avant qu'elles soient en magasin. Donc autant utiliser ce radar. Et je me suis fait embaucher par un bureau de tendance qui s'appelait le Future Lab en Angleterre. Et en même temps, en fait, ce qui a fait que je suis revenue en Paris et que je me suis vraiment mis dans le journalisme et que j'ai lâché les bureaux de tendance, c'est que j'avais postulé au Monde. En fait, le Monde, à l'époque, avait lancé un programme qui s'appelait le Monde Academy. Et le Monde Academy, leur but, c'était de recruter des profils atypiques et pas des profils Sciences Po. Ils espéraient sortir de ce recrutement très grandes
j'étais
écoles françaises.
J'étais parfaite, tu répondais
voilà.
Complètement.
J'ai coup de bol, voilà.
À ce profil.
Voilà, exactement, je leur ai envoyé une proposition. Alors moi, j'ai répondu totalement à l'arrache. Je me suis dit, c'est inaccessible, jamais ils vont prendre quelqu'un comme moi. Et c'était un article, parce qu'à l'époque, c'était ma période où j'étais obsédée par les fétichismes sexuels loufoques. Et il y avait des mecs qui s'appelaient les Looners, qui étaient excités par les ballons de baudruche. Et ils se frottaient à des ballons de baudruche. Et,
il n'est pas accessible non plus, celui-là.
celui-là, il est peut-être accessible quelque part. Okay. Mais en tout cas...
Ouais, donc tu étais à fond sur des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir dans le monde.
C'est ça.
Et c'est ce qu'ils cherchaient aussi, j'imagine.
Bah, en fait, oui et non, ils étaient un peu contradictoires parce qu'ils voulaient, dans cette promotion-là, ils voulaient quelqu'un, ils voulaient des gens
c'était
un peu atypiques.
Du journalisme washing. Ils voulaient s'acheter une certaine.
Voilà, il y avait un peu
un
de
peu
ça.
De ça
ouais. Un peu de ça, sauf qu'en réalité, en fait, à la fin de la promotion, il y avait quelques postes à la clé. Alors, moi, ils m'ont donné un prix, donc j'ai gagné de l'argent, mais j'étais quand même toujours trop atypique pour rentrer au monde. Donc, on m'a fait comprendre que.
Et tu l'as senti comment ? Ça se traduit comment ? C'est sur quoi ? À quel moment on dit t'es trop atypique ? Enfin, j'imagine que
en fait,
on te fait ressentir et qu'on te met pas dans un bureau en te disant t'es trop atypique. Mais,
comment tu le ressens ? On te dit, en fait, on embauche pour le desk. Voilà.
Ouais.
Et on te dit, Dora, t'as pas un profil desk.
On te dit ce que t'as pas envie d'entendre.
Exactement. Donc, évidemment, j'ai pas un profil desk. C'est pas moi qui vais te faire de la news AFP toute la journée. Enfin, oui, je pourrais, mais c'est pas là où est ma qualité. Je suis moins, peut-être même moins efficace que quelqu'un qui sait faire de la news AFP.
Quand Dora dit profil desk, ça veut dire profil au bureau qui ne sort pas et qui est journaliste devant son écran à réécrire des dépêches.
Exactement, c'est ça.
Donc, oui, en effet, ça peut pas coller.
Non,
et du coup, ça, cette expérience-là, mais c'est ça qui te fait revenir à Paris ?
C'est ça qui me fait revenir à Paris.
Sinon, tu serais encore en Angleterre ?
C'est possible.
Ouais.
Franchement, c'est possible. Parce que le taf bureau de tendance, c'était assez passionnant.
Ouais.
Donc, ça me fait revenir à Paris. Je commence à piger à droite à gauche pour pas mal de magazines. Que ce soit Glamour, à l'époque Uzbek Erika, quelques articles dans Stylist, un peu à droite à gauche. Et puis, mon blog, La Gazette du Mohégou, était toujours disponible en ligne et je continuais à l'alimenter. Et je me fais embaucher par France 2.
Pour une chronique télé.
Ouais, pour une chronique télé. Donc,
ça,
comment
pour
ça
le
va
coup,
bien
on peut voir encore quelques
on
extraits.
On peut voir. Alors ça, c'est absurde. Je me retrouve propulsée sur un plateau avec Stéphane Bern l'après-midi, l'émission de la ménagère. Je comprends pas ce que je fais là. Enfin, franchement, j'accepte parce que pourquoi pas après tout. Mais je me dis, mais quelle erreur de casting. Enfin, moi, je parle de trucs franchement assez hipster, quoi. Enfin, assez niche, assez. À ces cultures web, et eux, ils n'ont pas du tout une audience comme ça, donc je pense que leur volonté était, tu vas faire en sorte que madame ait un truc à raconter, un peu gaulerie à son mari le soir, sauf qu'en fait ça marche pas trop, parce que je parle pas à la bonne audience, et que je pense que c'était un peu une erreur de casting de leur part, mais même, enfin moi je le vis
même
de façon
amusante.
Même
moi, tu te sens pas à ta place.
Non,
si.
Pas du tout. Ah non, je me sens pas du
mais
tout
tu
à ma place.
Mais tu t'éclates. C'est des bons moments.
Oui et non, pour être honnête, c'est compliqué.
C'est quoi qu'est-ce qui t'éclate pas ?
Ce qui m'éclate pas, c'est que j'ai une oreillette à longueur de temps et qu'on me dicte tout et qu'on me dit Dora souris, Dora pose une question, elle a une cigarette, Dora non, Dora tiens-toi Dora. Et quand je dis que je veux pas qu'on me maquille, si on va te maquiller comme Miss France. Enfin. Alors, il y a un truc qui m'amuse, parce que je joue le rôle et je connais pas le monde de la télé, et du coup, je rencontre des gens genre Pierre Foucault, il y a tout un world m'amuse, en fait, qui est ce monde que j'ai regardé enfant à la télé, donc il y a quelque chose de très amusant là-dedans, et en même temps, je suis pas chez moi, quoi, enfin, voilà. Et c'était une expérience super, avec du recul, mais aujourd'hui, si Enfin, si on me reproposait de faire ça, je dirais non. Parce que j'étais pas libre, en fait. Parce que j'ai l'impression d'être une... Enfin, j'ai accepté d'être la marionnette le temps que. Parce que ça, c'était une expérience intéressante, mais voilà.
Et vraiment que marionnette ? Il n'y a pas un moment où tu te dis « Je vais pouvoir profiter de cette fenêtre sur France 2 pour, parler de choses qui me tiennent à cœur de... ?»
C'était très compliqué, parce qu'en fait, celui qui dirige le plateau, c'était Stéphane Bern. Et du coup, c'est lui vraiment qui a la main sur la parole. Donc, il te la donne, il te la retire, etc. Et moi, j'ai l'impression que j'avais pas... on me demandait pas d'être la fille qui remet les choses en question. C'est pas un plateau de remise en question, c'est un plateau lifestyle où on te montre le maquillage, la cuisine, le truc. Disons qu'un esprit comme le mien est dérangeant, oui, sur un truc comme ça.
Pardon, mais ça aurait pu être aussi un espace où on parle du plaisir féminin. Alors, tu vois, derrière, tu aurais pas pu avoir la même liberté de parole que ce que t'as fait derrière, et on va en parler avec Tajoui, mais à aucun moment t'as senti que ça pouvait être un espace sur lequel on avait une parole libre.
Ce que non, tu nous dis, c'est que la télé, sens, en fait.
Ça peut pas être une parole libre.
Non, je pense qu'il y a certains plateaux où il peut y avoir une parole libre, mais celui-là, ça a jamais été le but. C'est une émission, pas de journaliste, mais de divertissement déjà. Et quand on rentre dans du débat, c'est plus du divertissement. Donc on m'a pas recrutée pour ça, on me l'a bien fait comprendre et sentir. Et mon rôle, c'était plutôt d'amuser la galerie avec des trucs what the fuck du web. C'était plus ça.
Petite jeune qui surfe sur Internet.
Yes, c'était ça.
Et du coup, après, tu pars chez Combini. C'est en parallèle.
C'est pas en parallèle que je remette les choses en place. Après, je continue. Ce qui se passe, c'est que après ça, je me dis, moi, je veux faire du docu. Voilà. Je me dis, chroniqueur, c'est pas mon truc.
Je veux prendre le temps.
Je veux prendre le temps et je veux faire un truc qui me plaît. Et en fait, à l'époque, j'ai l'intermittence du spectacle parce que
Parce que t'as été chroniqueuse.
Voilà, exactement. Je me dis, je vais prendre ce temps-là et je vais essayer de développer un projet de série docu. Et en fait, à l'époque, mon rêve, c'était de vendre une série docu où j'allais dans différents pays qui étaient en fait des pays où la culture vestimentaire était en train de changer. Ce qui me passionnait, c'était le moment où où il y avait encore un vêtement traditionnel fort et on était en train de basculer dans la modernité. Et je voulais raconter ces pays-là à travers leur culture vestimentaire.
Avec un basculement vers l'uniformisation, c'est-à-dire que tout le monde va finir par s'habiller pareil.
Oui, ouais, exactement.
Okay. Très joli sujet.
Voilà, donc moi je trouvais que c'était un sujet passionnant. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai levé de l'argent en crowdfunding. J'ai une marque de jeans qui s'appelle Bonobo, une marque éthique, qui m'a financé une autre partie. Et donc, en tout, j'ai eu 10 000 euros. Et je me suis dit, je tourne un pilote. Donc, j'ai tourné un pilote au Maroc, parce que justement, le Maroc, c'est un pays en transition. Et puis ensuite, j'ai été voir des boîtes de prod. Il y a une boîte de prod qui a essayé de le vendre en télé. Mais ça a été extrêmement compliqué. C'est-à-dire qu'on nous a reçus. Mais la mode, nous, on veut les reines du shopping. Mais Dora, là, tu nous fais un truc d'anthropologue relou.
Catwalk. Et, voilà.
Exactement. Et il n'y avait que Arte qui aurait pu être intéressé, mais ils avaient déjà produit il y a quelques années quelque chose sur le vêtement qui n'avait pas non plus cartonné, parce que c'est quand même c'est assez compliqué quand on parle de vêtements de façon un peu culturelle.
Donc, ce que je comprenne bien, tu étais financé, mais tu n'as pas été diffusé.
Exactement, c'est ça. Le premier épisode a été financé. Le pilote.
T'avais quand même besoin de fonds de la part de diffuseurs potentiels.
Oui, sinon je pouvais pas. Par épisode, il me fallait des fonds pour tourner, donc je pouvais pas le financer toute seule. Donc s'il y avait pas de diffuseur qui l'achetait, moi je pouvais pas Donc j'ai mis quand même presque 7 mois, 8 mois à mettre ça en place. Surtout que je ne connaissais pas du tout le monde de la prod, moi. Enfin, j'ai tout produit toute seule. J'avais que dalle. J'avais jamais monté un truc. Enfin, voilà. Je me suis lancée là-dedans. Et au final, c'est tombé à l'eau. Mais c'est pas grave, parce que j'ai trouvé que c'était déjà une super expérience. J'ai appris à écrire.
Et ça te sert aujourd'hui pour ton docu.
Et c'est comme ça que j'ai rencontré mon producteur, en fait. Ouais. C'est en allant vendre cette idée-là que j'ai rencontré mon producteur, qui à l'époque, lui, m'avait dit c'est pas notre truc. Mais si un jour, t'as d'autres sujets, tu sais quoi, je suis open, reviens vers moi. Et je suis revenue vers lui des années après. Donc voilà. Mais après,
ça a été utile.
Très utile.
De toute façon, tout est utile. Dans
tout est utile, c'est ça. Et ensuite, après cette expérience-là, je me suis fait embaucher chez Combini. Combini qui m'avait... Alors ça aussi, c'était marrant. Combini qui avait entendu parler de moi parce qu'ils avaient vu mon trailer sur le vêtement autour du monde, sur Facebook, tourné. Et un gars qui était DA à l'époque m'avait dit « Ah, viens, passe, nous, on veut faire des vidéos mode chez Combini. » Et j'étais venue le voir, j'avais rencontré par ailleurs le mec qui était directeur adjoint à l'époque, et par hasard, il y avait un poste de rédac chef adjoint qui se libérait, la meuf s'était barrée, je sais pas, assez rapidement. Mmh. Et du coup, concours de circonstances, ils m'ont proposé le poste, parce que bon, ils savaient la Gazette du Mouégou, que j'avais, que j'avais déjà... pas mal de... Enfin, t'as fait en ligne que je connaissais bien le journalisme web. Et du coup, ben, pendant presque 2 ans, ouais, j'ai été rédac chef adjointe.
Et là, chez Combini, c'est du desk, non ?
Ouais, c'est principalement du desk chez Combini, clairement.
Pourquoi avec Combini, tu accordes 2 ans de ta vie et comment ça se passe et...
Alors, déjà, parce que... Alors, tu dis totalement pourquoi.
C'est bah oui, c'est que, l'idée.
Voilà. En fait, à l'époque, quand j'ai lancé la Gazette du Mauvais Goût, c'était le début de BuzzFeed. Ouais. Voilà, donc j'ai vu... BuzzFeed était presque un blog de merde, vraiment. Et j'ai vu ces gens qui avaient des petits blogs créer des sortes de mastodontes d'Internet. Et moi, je me suis dit, j'ai loupé le coche. Enfin...
Pendant que je faisais mes chroniques sur France 2.
Mais complètement. Je me suis dit, en fait, il y a un truc que j'ai pas compris dans comment on fait pour... Parce que Combini aussi, c'était des petites vidéos, et puis ils ont commencé en faisant un petit blog, et puis c'est devenu un truc énorme. Et en fait, j'avais la frustration de ça, du genre, non mais faut que je comprenne, tu vois. Faut que je comprenne c'est comment ça fonctionne, en fait, en termes presque de business derrière moi. Et en fait, en parallèle, l'année d'avant, quand j'avais fait la série docu, que j'avais essayé de vendre, j'ai repris des études, j'avais fait l'Institut français de la mode en business et entrepreneuriat, parce que j'étais déjà en train de me dire, bon, c'est très bien d'être journaliste, mais ma fille, tu comprends rien en business, ça va pas du tout, quoi. Enfin, en fait, tu comprends pas la monétisation des médias, et il y a un moment, si tu veux être libre, il faut savoir monétiser, et là, il te manque un truc. Donc, j'étais déjà un peu dans cette réflexion-là, et du coup, quand Combini arrive, je me dis, ah bah, c'est génial, je vais enfin comprendre le business derrière un truc pareil, parce que le contenu, je sais le faire, le monétiser, il n'y a plus personne. Et du coup, c'est ça qui m'a intéressée. Et puis, je voulais aussi savoir si, au niveau de... En fait, comment fonctionnait la machine à buzz ? Est-ce qu'il y avait... Enfin, parce qu'il y avait ce mythe de l'algorithme qui choisit les articles. Et je voulais savoir si c'était vrai. Et en fait, c'est pas vrai du tout. Tout se fait à l'intuition. Évidemment, il y a des revues de chiffres, mais c'est pas ça qui fait qu'on décide de faire tel ou tel sujet. Donc ouais, moi c'était vraiment...
Tu gardes un bon souvenir de ce passage ?
Ouais, franchement, non. Oui. Ça s'est pas toujours bien passé avec tout le monde, honnêtement, notamment avec un mec en particulier qui avait des avis bien trop sexistes pour moi. Mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était un super environnement de travail. C'était très agréable d'y travailler. C'est une équipe jeune, super sympa, super motivée. Des gens gentils donc, aussi. Ouais, donc, et ça, c'est bien.
Bon, à part avec une personne, ouais. Tu n'as pas ressenti... l'effet ligue du LOL qu'il peut y avoir dans les qu'il y a pu avoir dans les médias
non je dirais qu'il y avait un mec type ligue du LOL voilà ouais. Il y en avait un qui était là et qui n'y est plus mais à part ça non les gens étaient pas du
ouais.
Tout
t'as ressenti de la bienveillance ouais, et de l'envie
complètement.
De
complètement après il y a aussi des limites il y avait des limites à ma liberté d'expression quand même c'est-à-dire que j'aurais pas pu faire ta jouie chez Combini.
Pourquoi ?
Parce que, en fait, Combini, ils ont toujours été... c'est plus un média qui fait du relais. Donc, c'est-à-dire qu'ils peuvent relayer quand t'as joué, mais c'est pas eux qui se positionnent. Enfin, disons que c'est pas un statement trop grand.
Tu penses pas que
c'est
en train de changer, ça ? Parce que moi, j'ai le sentiment que il y a encore 10 ou 18... Allez. Peut-être pas 10 ans, il y a encore 5 ans,
ouais.
Un média pouvait pas assumer tout par rapport à justement son business model, ouais. À ses relations annonceurs et tout ça. Mais que finalement, on rentre dans un monde de l'impact,
ouais.
du sens, et que finalement, le message qu'a diffusé Tajoui auprès de plein de femmes en France, il a un impact, il donne du sens. Et que donc, finalement, bah, y a sûrement des marques qui auraient envie de s'associer aussi à ce type de message. Non, je me fais des illusions.
Non, moi, j'aimerais croire que c'est vrai, mais je peux te dire que c'est pas si simple, parce que moi-même, je me pose des questions sur la monétisation de ta jouée aujourd'hui, et que des marques qui sont prêtes à être 100% engagées dans mon message, c'est pas si simple à trouver au final. Donc, je comprends la réticence d'un certain nombre de médias, même si... À titre perso, moi je pense que quand t'es rédac chef d'un truc, t'es là pour transporter des idées auxquelles tu crois. Mais je dirais que dans la culture française du journalisme, on n'en est pas encore là, tandis qu'aux États-Unis, il y a plus de jeux. Déjà, dire « je », s'engager à la première personne, c'est déjà difficile dans le journalisme à la française. Il faut toujours se cacher derrière ce truc de un regard neutre. Voilà. Cette histoire du regard neutre, moi, ça m'agace.
Cette histoire d'objectivité.
Ouais,
mais qui disparaît finalement de beaucoup de... Enfin, quand tu regardes, il y a beaucoup de marques aujourd'hui qui justement ne veulent plus être objectives et qui même s'engagent politiquement. La plupart des médias sont engagés aujourd'hui. Mais je comprends ton point. T'as fait la transition toute seule avec ta jouisse, j'allais y venir. Ouais. T'as joui, ça commence, t'es encore chez Combini ou tu
non,
es déjà partie?
Je suis déjà partie de chez Combini, ça fait 8 mois, ouais, 8-9 mois que je suis partie de chez Combini.
Et ça commence, enfin, alors je sais pas si c'est du storytelling, mais moi tout ce que j'ai lu, ça commence avec une réflexion désagréable d'un mec, c'est ça?
Non. Alors oui, exactement, en fait ce qui s'est passé c'est que en fait, des mois avant, j'avais eu une date avec un mec, enfin une date Tinder quoi, un truc à la con. Et le mec s'était mis à me raconter, il s'était mis à m'expliquer que les femmes jouissaient peu parce qu'elles étaient beaucoup plus cérébrales, intellectuelles, etc. Et en fait, ce qui était délirant, c'est que le mec, je disais, mais moi, je suis une fille, moi,
c'est
je vais t'expliquer.
C'est pas très sympa pour les mecs, ça voudrait dire qu'ils sont pas cérébraux.
Oui, effectivement. Et lui, il me disait, oui, mais moi, toutes mes potes, elles me disent ça. Enfin, il essayait de me contrer tout le temps lorsque j'ai envie de dire, mais t'as une femme en face de toi qui, elle, te dit autre chose, donc écoute. Donc moi j'ai commencé à lui expliquer que si les femmes jouissaient moins, c'est que c'était pas ça la raison, mais qu'il y en avait tout un tas d'autres raisons. La première raison, c'était la méconnaissance de notre propre anatomie en tant que femme, et par conséquent, les hommes aussi connaissent très mal notre anatomie. Et que deuxièmement, il y avait tout un tas d'injonctions à être belle, à être mince, à avoir une chatte en forme de pêche, à avoir tout un tas de trucs qui font que, en fait, on se regarde couché. On ne peut pas être dans notre corps. On est le spectateur de l'acte, les spectatrices de l'acte. Et que par conséquent, se lâcher dans l'acte, pour une femme, ça, c'est encore plus... je pense que c'est encore plus difficile que pour un homme. Et quand je lui disais ça, il me disait « mais pas du tout ». Donc je suis partie de cette date assez furax, quoi, parce que je me suis dit,
mais il t'a aidé à construire tout un discours.
Exactement, il m'a beaucoup aidé ce garçon. je le remercie. Et donc voilà, bon, ça m'est resté dans la tête, mais j'en ai pas fait un plat non plus.
D'accord.
Je me suis dit « bon, qu'importe ». Et en fait, j'en ai parlé aussi à des copines un peu autour de moi. Pas de cette date-là, mais en fait, je m'amusais souvent à demander à mes copines, quand elles me racontaient, elles me disaient « Ah, mais j'ai rencontré ce mec, et on a niqué, on a fait ceci, cela ». À la fin, mes copines avaient tendance des fois à raconter des choses un peu de façon peut-être grandiloquente ou en faisant genre que waouh, c'était un truc de ouf. Et à la fin, je m'amusais à dire ouais, mais attends.
Mais en vrai.
Mais en vrai, ouais, c'est ça. Mais en vrai, enfin, t'as eu du plaisir, t'as joui. Et la plupart de mes potes me disaient ah, mais non, mais moi, je jouis pas. Moi, je joue jamais avec un mec. Et j'étais là, alors arrête de me raconter ton truc. Toi, tu me racontes un film de cul, mais t'as pas kiffé en fait. Enfin, c'est génial. Et ça m'a aussi. Je me suis dit, mais attends, tourne pas rond, quoi. Et ce qui s'est passé au final, c'est que le 15 août donc 2018, je sais pas pourquoi, j'ai eu envie de passer un coup de gueule en story sur mon compte perso, enfin je sais même pas, je me suis levée avec une envie de dire quelque chose là-dessus. Et donc j'ai parlé de jouissance féminine et du problème que je voyais. Et là, ça a été une folie furieuse, c'est-à-dire que j'ai eu, pourtant c'était une petite communauté, hein. J'avais sur mon compte perso 2000-3000 personnes, et là j'ai reçu à peu près 100 messages de femmes dans la journée qui me disaient, moi ça fait 7 ans que je suis avec mon copain, j'ai jamais joui, je me suis embrigadée dans un mensonge parce que je simule, comment rétro-pédaler, j'ai jamais joué avec un homme, j'arrive à jouer toute seule, mais pourquoi j'arrive pas, bon bref, plein de messages, et je me suis dit, mais attends, je suis vraiment pas seule à penser qu'il y a un souci, et en plus de ça, j'ai l'impression que je mets le doigt sur un truc qui est ultra tabou et dont les femmes ont envie de parler. Donc je me suis dit, soit j'en fais un article que j'essaye de vendre voilà, à un média, qu'importe, ou je le mets sur Medium, bref. Ou soit sinon, j'en fais un compte Instagram, parce que je voyais qu'il y a de plus en plus de témoignages qui arrivaient. Donc je me disais, c'est une façon de les archiver.
Et de les repartager derrière. En respectant l'anonymat, mais...
Oui, tout à fait. Donc du coup, j'ouvre le 15 août ce truc « T'as joui ?» Voilà, mais vraiment le truc à l'arrache, hein. Je me dis tac, je le fais. Et le truc qui est délirant, c'est que j'annonce juste sur mon compte perso en disant bah voilà, j'ai lancé ce compte Instagram. Et dans la journée, je passe de 0 à 10 000 followers. Mais j'ai rien
dans
fait.
Dans la journée.
Et que des meufs qui se taguent dans les posts, et regardent et machin, et la story. Et le truc qui est complètement. Moi, je vois les chiffres défiler.
Ouais, donc preuve que tu réponds à une vraie, un vrai questionnement.
Un vrai questionnement.
Et pourquoi t'as joui ?
Parce que moi j'ai toujours trouvé que c'était une question un peu.
On a compris que tu savais créer des mots parce que tu essayais déjà de créer des prénoms. Et,
voilà.
Du coup tu sais créer des marques.
Exactement.
Mais.
Parce que je trouvais que c'était toujours un peu une question hypocrite en fait, t'as joui. Parce que dans le fond, quand quelqu'un te pose ça, quand une femme jouit, ça se voit. Enfin, ça se voit ou ça s'entend ou ça se ressent.
Avec ma perspective de mec, donc sûrement peut-être un peu maladroit, mais je me disais que c'était au contraire que tu voulais inciter les hommes à s'enquérir du plaisir féminin. Et est-ce que ma partenaire a joui à se poser la question de manière concrète à chaque rapport?
On peut le voir dans les deux sens. Pour moi, t'as joui, c'est un peu c'est cynique. Enfin, la façon dont j'ai écrit le truc, c'est t'as joui, j'ai eu l'air. voilà. Donc, c'est un peu. C'est un peu cynique.
Ok. Voilà. De toute façon, et est-ce que c'est un compte que tu crées en te disant justement par rapport à tous ces messages de femmes que tu reçois, en te disant, on va créer un safe space entre nanas et on va parler du plaisir féminin, ou dès le départ, tu te dis, c'est un compte qui doit. Et ça serait bien qu'ils parlent à tous, quoi.
Dès le début, au début, je me dis, j'archive des trucs. Enfin, voilà, j'ai aucune ambition. Voilà, j'ai pas d'ambition, je lance un truc, je me dis... Enfin, en fait, moi, j'ai 15 comptes Instagram. Hein. Avant qu'un fonctionne comme ça, ça a pris des années, on va dire. Donc, je suis quelqu'un qui archive tout. Donc, j'ai un Pinterest, un Tumblr, j'ai 15 Tumblr, 15 Pinterest. J'ai des trucs sur tous les sujets, sur les têtes. J'ai un Tumblr sur les tapis, par exemple.
Donc, à part l'article sur le mohair qu'on retrouvera pas, sinon tu gardes tout.
Ouais, je garde tout. J'archive, quoi. Donc là, c'était juste une archive de plus, tu vois. Par exemple, j'ai un autre compte que sur les fleurs. J'archive les agriculteurs de fleurs parce que il faut que j'ai envie de les retrouver. Bon. Et là, je me dis, je fais une archive de plus, quoi. Voilà, ça se trouve, j'ai 400 followers, comme sur plein d'autres de mes archives. Donc, j'ai pas d'ambition.
T'as pas d'ambition, tu te dis pas, je vais aider des gens.
Pas du tout. Pas du tout. Et quand ça prend, là, je me dis, ok, et je me rends compte que qu'en fait, ce qui semble des évidences pour moi, ça ne l'est pas pour plein de femmes. Et qu'en fait, moi, j'ai l'impression de raconter certaines banalités. Par exemple, un truc que je dis et qui marche énormément et que les femmes se sont mises à partager, c'est je dis, mais quand le mec, il a fini l'acte et qu'il jouit, la plupart des hommes pensent que si toi t'as pas joué en tant que femme, c'est pas grave, le mec s'endort à côté, le truc est terminé. Et je dis tout simplement, pourquoi ? Enfin, là, c'est pas normal en fait. Moi je suis frustrée à côté, ça me fout le seum en vrai. Enfin, quand je vois le mec, je le fracasse quoi. J'ai envie de dire, pourquoi ? Et surtout, quand tu laisses un mec en galère, là tu en entends parler jusqu'à la fin de la vie. Hein. C'est je peux pas faire ça, mais ça se fait pas, machin. Tandis que lui, il se dit pas que ça se fait pas. Donc je dis tout simplement ça, et là, prise de conscience de plein de femmes, c'est ouf, les mecs ont toujours fait ça avec moi et je n'ai jamais rien dit. Et même des mecs qui m'écrivent, qui me disent, mais je me suis toujours comporté comme un énorme enculé en fait. Et j'ai même pas pensé que c'était une phase de bâtard.
Et pourquoi toi justement tu as déjà cette connexion?